Chers amis, bonjour. Vous vous souvenez que dans notre première leçon, ce petit cours sur saint Paul, nous avions d'abord mis en évidence le fait que Paul est certes un grand théologien, est certes un grand missionnaire, mais avant tout, c'est une grande figure de sainteté. Et cette sainteté a été tôt reconnue dans l'histoire de l'Église, et la fête, les trois fêtes qui sont dédiées à saint Paul, deux en commun avec Pierre, et puis la conversion de saint Paul, le jour où nous avons débuté ce cours, le 25 janvier, et puis aussi le fait que rapidement sa mémoire fut honorée, notamment avec, dès le 4e siècle, la grande basilique de saint Paul hors les murs. Puis nous avions contemplé ce que voit l'artiste, en l'occurrence Rembrandt. Nous avions commenté un petit peu cette belle image, vous vous en souvenez, une représentation de Paul en prison, qui se trouve à Stuttgart. Et nous avions souligné la profondeur du regard, à la fois réflexif, contemplatif de Paul, et puis des éléments symboliques, dont Rembrandt, qui connaît bien les Écritures, ne se privait pas. Et il a en tête notamment un passage d'Éphésiens qui parle des pieds du porteur de bonnes nouvelles, du messager, et puis du glaive, du tranchant, de la parole. Et nous avions souligné aussi le ray de lumière sur la tête de Paul qui signifie son inspiration à ce moment-là, au moment où il écrit en s'appuyant lui-même sur trois livres, l'un qu'il a sous la main, l'autre à côté et à gauche du tableau, qui peuvent représenter l'ensemble des Écritures qui sont divisées dans la tradition juive en trois sections. Ceci dit en apéritif, nous avions rappelé quelques éléments de sa vie, en référence aussi avec le premier chapitre du petit livre que j'avais évoqué. Alors, avant Damas, on s'était rappelé que Dieu l'a choisi parce qu'il était déjà au carrefour de diverses cultures, sensibilités, juifs et profondément, puisque pharisien, et élevé au pied de Gamaliel, romain par sa citoyenneté et par sa naissance dans la ville de Tarse, une ville cosmopolite, ouverte à l'hellénisme, à la présence de la culture grecque. Eh bien, il avait pu déjà profiter d'éléments de ces cultures grecques qui vont affleurer dans ses procédés rhétoriques, dans ses lettres. Nous avions évoqué sa ville natale, où la communauté juive en diaspora était importante, et c'est là qu'il a reçu sa première éducation chrétienne, en famille bien sûr, mais aussi à la synagogue, là où il a pu fréquenter déjà les Écritures, non seulement en hébreu, mais encore dans la traduction grecque, qu'on appelle la traduction des Septante, et ce sera un point d'appui pour toutes les citations qu'il fera de l'Écriture, dans ses lettres, écrites bien sûr comme le reste du Nouveau Testament en grec. Donc déjà nourri ainsi de l'Écriture, de la foi de ses pères. Et plus que nourri, il était un pharisien zélé et persécuteur. Le mouvement pharisien accordait une place à la tradition orale qui commente les Écritures en cherchant comment les actualiser, les appliquer à des circonstances nouvelles. Et Paul fera cela, il s'appuiera sur l'Écriture pour rencontrer des situations, des questionnements de ses auditeurs, de ses lecteurs, dans ses lettres. Il était d'obédience pharisienne et se rattachait par son maître qu'il avait fréquenté à Jérusalem, Gamaliel, à un certain Hillel, qui avait des vues plus larges, plus souples concernant l'accueil à réserver aux prosélytes, à ceux qui s'intéressaient à la religion juive et même voulaient y adhérer, en confessant la foi monothéiste du judaïsme. Et bien que de tradition plus large par Hillel, finalement, il persécute l'Église de Dieu, spécialement la faction helléniste, avant sa conversion de Damas, parce qu'il a bien perçu comment ces juifs hellénistes, qui sont moins fixé sur le culte du temple, de la loi, même s'il les respecte, mais comment il représentait, en confessant Jésus comme source de salut, une menace pour le point d'appui qui était central dans la vie de Paul, à savoir être fidèle à Dieu par l'observance de la loi de Moïse. Et le Christ manifeste que ce n'est pas l'observance de la loi, même si elle n'est pas déconseillée, bien sûr, et même recommandée, mais ce n'est pas elle qui nous sauve, car on n'arrive jamais à l'observer, mais c'est le Christ qui nous sauve par miséricorde. Et cela, Paul va l'expérimenter dans son chemin de Damas, dont nous avions vu trois versions. Vous vous souvenez, c'était la page 3 que je vous avais donnée, une sorte de petite synopse des trois versions de ce récit du chemin de Damas que l'on trouve dans les Actes, au chapitre 9, où c'est l'auteur qui le rappelle, et au chapitre 22, puis 26, où c'est Paul qui prend la parole devant des auditoires, d'abord en 22, un auditoire juif à Jérusalem, et puis en 26, à Césarée Maritime, en attente d'être transporté à Rome, devant un auditoire romain, en l'occurrence le roi Agrippa. Nous avions vu, comparé un peu, ces trois relations de l'événement de Damas, en soulignant comment dans la troisième, une place plus grande est accordée au point d'appui scripturaire dans lesquels les choses sont formulées, à savoir Jérémie et Isaïe. Vous aviez les références là dans la colonne de droite, notamment Isaïe évoquant la sortie des ténèbres vers la lumière, et j'avais souligné que c'est exactement ce que la Providence donne à Paul d'expérimenter à ce moment-là, puisque son aveuglement sur le chemin de Damas par cette grande lumière est comme le signe de sa cécité intérieure, mais dont il va être guéri. À la fois, il va recouvrer la vue physiologique, mais plus profondément, bien sûr, acquérir la vue spirituelle qui lui permet de reconnaître le Christ. Et les conséquences de cet événement étaient considérables. Il perçoit l'importance de la persécution dont le Christ est victime à travers la persécution de son corps. Il perçoit que ce Christ mort et persécuté est ressuscité puisqu'il lui apparaît. Il comprend qu'il lui fait miséricorde et que c'est là la grâce principale que Dieu nous octroie. Sa théologie de la grâce miséricordieuse est en germe là. Cette grâce de miséricorde l'habilite en même temps, par faveur divine, à recevoir sa mission qui lui a déjà signifié, comme dans la perspective large d'Isaïe, attentif à l'espérance du salut de toutes les nations, Paul, d'emblée, par l'intermédiaire d'Ananie, dans un autre passage, se voit promettre d'être particulièrement apôtre des nations, comme il le redira lui-même. Et par le biais d'Ananie, il entre dans une tradition ecclésiale également. Voilà, j'ai reparcouru la feuille de route numéro 1 que je vous avais donné et qui correspondait à ce que nous avons vu. Nous avions aussi quand même abordé ce que, après l'événement de Damas, il s'était passé. D'abord, je vous rends dise de transition, de reprise. Je vous donne quelques passages plus précis qui rappellent Paul persécuteur. En acte 8, 3, il est dit « Quant à Saul, il ravageait l'Église ». En acte 22, un de ses récits, son chemin de Damas, il le reconnaît « J'ai persécuté à mort cette voie, je faisais mettre en prison, etc. » En acte 26, « J'avais cru que je devais tout mettre en œuvre contre le nom de Jésus, de Nazaréen. » Puis non seulement c'est dit dans les actes, mais dans la lettre aux Galates, au chapitre 1, le verset 13, vous avez entendu parler de ma conduite de jadis dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la malmenais. Et encore en 1 Corinthiens, au chapitre 15, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc Paul reconnaît cet avant Damas persécuteur. Puis en route vers Damas, deux ou trois références scripturaires, dans les actes, de nouveau, en acte 9, respirant encore la menace et le meurtre, etc. Nous avons vu ces trois passages où Paul rappelle qu'il se rend à Damas et il souligne qu'il se sent mandaté par les autorités même de son peuple. En acte 9, il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, etc. en acte 22, ayant même reçu d'eux, les grands prêtres et les anciens, des lettres pour les frères de Damas, et en acte 26, je me rendais à Damas avec pouvoir et procuration des grands prêtres, quand vers le milieu du jour, etc. Donc, c'est de cette assurance d'être dûment mandaté par les autorités mêmes qui avaient proclamé la condamnation de Jésus de Nazareth, eh bien, qu'il persécutait les chrétiens. Puis, sur son chemin de Damas, il expérimente cette grâce dont j'ai rappelé déjà les germes de sa théologie. Alors, après la conversion, c'est là que j'en viens, à votre feuille de route numéro 2, avant les grands voyages missionnaires, on avait dit d'abord qu'il avait fait un bref séjour en Arabie, à entendre au sens de la région de l'au-delà du Jourdain, en Transjordanie, en Arabie, et il en parle, on en parle en acte 9. Il passa, après s'être remis de ses émotions, si je puis dire, de Damas, quand il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, il passa quelques jours avec les disciples de Damas, et aussitôt il proclamait dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Donc cet empressement, aussitôt après sa conversion, à prêcher. Puis il évoque qu'il est parti dans cette région qu'on appelle l'Arabie, en Galates 1,16, aussitôt, sans consulter chair et sang, sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, ça sera un peu pour plus tard, je partis pour l'Arabie et de nouveau je retournai à Damas, il ne s'étend pas, puisqu'on a vu que là, sa proclamation en Arabie à la communauté juive qui se trouvait là-bas, dans le pays des Nabatéens, n'a sans doute pas été un grand succès. Mais à tel point qu'il va être poursuivi dans Damas. Et en acte 9, 23, on peut lire « Quand se furent écoulés un bon nombre de jours, les Juifs, des Juifs de Damas, se concertèrent pour le tuer, mais ses disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille en le laissant glisser dans une corbeille. » Donc ses premières prédications lui attirent déjà quand même quelques foudres et menaces. En 2 Corinthiens 11, verset 32, à Damas, l'ethnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, ainsi j'échappais à leurs mains. Donc on comprend qu'à Damas, lorsqu'il est revenu à Damas d'Arabie, ceux qui lui en voulaient, ce n'étaient pas simplement des Juifs, mais des gens envoyés par le roi Arétas lui-même. Puis il va faire une première visite à Jérusalem, on pense peut-être deux, trois ans après sa conversion, dont il est dit, en acte 9, 26, « Arrivé à Jérusalem, il tentait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et Barnabé, souvenez, ça sera son compagnon de la première heure, c'est lui qui va l'introduire, le prenant avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, etc. » Et donc, il permet à Paul d'être suffisamment accueilli par les autorités de l'Église à Jérusalem. Ce qui semble correspondre à ce qu'il dit en Galates 1, 18. Ensuite, après 3 ans, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas et je restai 15 jours auprès de lui. Puis, à Jérusalem, Paul parlait et discutait. Acte 9, 29, donc vous voyez, je suis un peu ici le texte de Acte 9, verset 23 et suivant. Paul parlait, discutait avec ses hellénistes, mais ceux-ci entreprirent de le tuer. Les frères, l'ayant su, le firent descendre à Césarée, d'où ils l'envoyèrent à Tarse. Donc, à Jérusalem, il a rencontré les autorités, mais là aussi, il veut commencer à prêcher, et il n'est pas si bien accueilli. Donc, ses débuts sont difficiles. C'est un temps de conversion pour le converti. Ensuite, dit-il en Galates 1, 21, « Je vins dans la région de Syrie et de Cilicie. J'étais d'ailleurs personnellement inconnu des églises de la Judée. » Mais je connais que si on n'a pas bien accueilli à Jérusalem, c'est parce qu'on se demandait, mais quel est ce Paul de Tarse. Et durant cette période, Paul et Barnabé vont œuvrer à Antioche, donc de Jérusalem, il part dans sa région natale, Damas, et aussi Barnabé l'entraîne à Antioche, un petit peu plus bas. Ensuite, selon le récit des Actes, on va avoir une deuxième visite à Jérusalem. Et puis, à la fin de cette visite, quant à Barnabé et Saul, une fois leur service assuré, à savoir l'acheminement des fruits d'une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, de Judée, qui étaient dans le besoin, une fois leur service assuré, ils s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, qu'on avait surnommé Marc. Et c'est à partir de là que l'équipe va commencer à se mettre en route pour des voyages missionnaires, que j'évoque maintenant brièvement. Donc, voyez où je suis sur la feuille de route, deuxième point, l'époque des grands voyages missionnaires, après qu'il ait déjà œuvré positivement, cette fois à Antioche, où les chrétiens reçurent pour la première fois le nom de croyants, ceux qu'on appelait les tenants de la voie, eh bien, reçoivent alors leur nom de chrétiens. Ces voyages, par voie de terre, par voie de mer, je vous dis, sont éprouvants. Il a dû parcourir en tout au moins 10 000 km et dans des conditions maritimes et terrestres difficiles dès qu'on s'écartait des grands axes. Et dans un climat aride à travers les plateaux d'Anatolie, l'intérieur de l'actuelle Turquie, ou un climat continental où en hiver il fait très rude, très froid, et en été il peut faire vraiment caniculaire, torride. Donc des conditions physiques de déplacement rudes, et puis des conditions psychologiques et spirituelles difficiles, on va le voir, puisque ce que le Seigneur avait promis, vous aurez des persécutions, ben, se réalise pour Paul aussi. Il va rencontrer des accueils, des succès, mais aussi, on va voir chaque fois aussi des refus, des persécutions. Ceci dit, brièvement, pour les conditions de voyage, donc le poids physique et le poids aussi psychologique, mental, spirituel de ces voyages. Il a un certain nombre de collaborateurs, je ne m'étends pas, nous allons les rencontrer en les fréquentant dans les entêtes des lettres, et puis dans le corps même de certaines lettres. Vous verrez qu'il est question de certains déjà dans la première aux Thessaloniciens. Ses collaborateurs principaux, c'est Barnabé, bien sûr, c'est lui qui l'a repéré, si je puis dire, qui était originaire de Chypre, un homme juste, sage. Il joue un rôle majeur dans les débuts de Paul, on vient de le rappeler, c'est lui qui l'a introduit à Jérusalem, et puis il va l'accompagner au début de ses voyages. Barnabé se séparera de Paul avec son cousin Jean-Marc, parce que le premier voyage en compagnie de Jean-Marc, pour Paul, n'a pas été si concluant. Au seuil du deuxième voyage, il y a eu un petit clash là avec Barnabé et Jean-Marc. Il a voulu se séparer d'eux. Après, il semble qu'ils se soient réconciliés, mais à ce moment-là, c'était un peu tendu. Mais lors du premier voyage, il a quand même fait partie de l'équipe. Timothée, le collaborateur le plus dévoué de l'apôtre, il était d'une mère juive et il acceptera à ce titre de se faire circoncire pour ne pas choper son environnement, sa parenté juive, tandis que pour Tite, qui n'avait pas d'origine dans le judaïsme, Paul refusera de le faire circoncire pour bien manifester que l'adhésion à la foi des pères et aux Écritures ne va pas jusqu'à impliquer pour les croyants venus du monde païen la circoncision. Ça sera un gros débat de la lettre aux Galates. Mais Tite et Timothée font tous deux l'objet de lettres qui leur sont destinées nominalement, ce qu'on appelle les épîtres pastorales, deux lettres à Timothée et une à Tite. Il faudrait donner à côté de ses collaborateurs principaux d'autres noms. Je vous avais dit que Tite est d'un tempérament plus carré, que Timothée plus souple, plus diplomate, mais chacun selon justement son tempérament a bien servi l'évangélisation. Il faudra ajouter des noms tels que Silas, Tychique, et puis le nombre de femmes dont il est question aussi dans les Actes des Apôtres, ou bien à la fin de certaines lettres qui ont aidé Paul en lui accueillant hospitalité, ou bien Priscille, l'épouse d'Aquilas, on rencontrera à propos des lettres aux Corinthiens, ce juif très, et puis Phébé, une diaconesse, semble-t-il, qui eut sans doute le privilège de convoyer la lettre aux Romains, si on en croit les indications finales de cette lettre. Serait-il que ça représente un beau réseau d'amitié qui entoure. Alors, les trois grands périples. Vous pouvez avoir les cartes sous les yeux. Les pages, je vous ai donné les pages 4 et 5, les cartes en ce sens. À la page 4, je vais démarrer par là. Une carte générale qui est tirée encore d'un cahier évangile de Charpentier, mais qui, pour ces données-là, garde toute sa pertinence et qui est bien pédagogique, qui permet d'un regard sur une seule carte de prendre un peu la mesure des différents périples. Et puis la page 5, ce sont des cartes distinctes pour chacun des voyages, pour qu'on puisse mieux identifier le parcours et dans les détails. Mais je commence par regarder avec vous la carte numérotée dans vos pages, la page numérotée 4. Le premier voyage, on part d'Antioche, comme pour le deuxième, comme pour le troisième. Donc c'est la base de départ. C'est une ville bien située, là, au bord de la Méditerranée, un petit peu plus bas que plus haut que Damas, mais un peu plus bas que Tarse. Barnabé et Paul d'Antioche vont en Asie mineure, vous voyez, en passant par Chypre, c'est la flèche numérotée 1. Une petite boucle, si l'on peut dire, du moins à l'échelle, c'est quand même vite quelques centaines de kilomètres, hein, mais par rapport aux autres grands voyages, ce qu'on appelle grand voyage, c'est encore un périple limité. Ils vont en Asie mineure en passant par Chypre et, dit le récit des actes, à ce moment-là, Dieu ouvre aux païens la porte de la foi. Dans la ville, vous pouvez prendre un instant la carte suivante de la page 25, le premier périple. On voit un peu plus les villes. Vous voyez qu'on part d'Antioche, on va vers Chypre en débarquant au port de Salamine, en traversant l'île de Chypre, on se réembarque à Paphos et l'on gagne la côte sud de l'actuelle Turquie. On débarque à Antalya et là on monte à Pergé, Lystre, Antioche de Pisidie, qui n'est pas à confondre avec l'Antioche qui est dans le coin de la Méditerranée, Antioche de Syrie. Donc Antioche de Pisidie, là c'est au cœur de la Turquie actuelle, Iconium, Derbé. Et vous voyez que le parcours est fléché dans les deux sens, c'est-à-dire de Derbé, Paul fait retour. C'est un aller-retour, là. Il repasse par les villes où il a prêché une première fois. Et il est possible qu'à Lystre, Paul embarque un certain Timothée, que ce soit là qu'il ait fait sa connaissance et qui va l'accompagner alors pour d'autres voyages. Donc, un périple limité, mais qui touche déjà, vous voyez, la zone au sud de la Galatie. Vous voyez qu'il est mis sur la carte, donc à la page 5, la carte en haut à gauche, là, le premier voyage missionnaire, il est mis Galatie. Ça, c'est le lieu de la Galatie géographique. Mais la Galatie, au sens administratif romain, s'étendait plus vers le sud et englobait, semble-t-il, déjà de ces villes comme Antioche de Pisidie, Iconium, que Paul a traversé. C'est important à savoir pour l'hypothèse d'une lettre aux Galates qui serait précoce, puisqu'il leur écrit forcément après les avoir rencontrés, avoir fondé leur communauté. Si c'est lors de ce premier petit voyage qu'il a touché déjà la Galatie du sud, donc au sens de l'administration romaine, ça, il est plausible qu'il ait peut-être écrit rapidement à ces Galates. Sinon, si il faut entendre la galaxie du nord, ce n'est que plus tard, dans les voyages ultérieurs, qu'il va monter vers le nord et rencontrer la galaxie du nord. Dans ce cas-là, la rédaction de la lettre aux Galates est plus tardive. On reviendra là-dessus, mais sachez qu'il y a une discussion sur la datation, soit plus précoce, juste après le premier voyage, soit plus tardive, lors du deuxième, troisième voyage, hein, de la lettre aux Galates. Je ferme cette parenthèse sur la terminologie de la galaxie. Mais dans l'hypothèse, la conception majoritaire, on pense que lors de ce premier périple, Paul n'a encore rien écrit. Deuxième voyage. Paul, accompagné cette fois-ci de Silas et Timothée. On ne fait que lire les petits encarts que vous avez au bas de la carte générale. Paul visite ces communautés. Il repasse. Lorsque Paul a fondé une communauté, il en garde le souci. Il ne se contente pas de porter l'évangile, de voir qu'il est plus ou moins bien accueilli, et puis d'estimer ça suffit, et voilà. Non, il va, dans la mesure du possible, repasser, il va écrire des lettres, il va prendre des nouvelles, s'informer, il a le souci des communautés qu'il a évangélisées. Et donc il repasse par ces communautés, et à Troas, donc vous suivez la flèche 2 là, et vous voyez que Troas, c'est au bord du détroit qui sépare l'Asie mineure, la Turquie actuelle, de ce qu'on appellerait l'Europe, en termes actuels évidemment, c'est un chronisme, puisque de Troas, c'est de là qu'on passe dans des villes du monde grec, Philippe de Macédoine, Pérée, Thessalonique, etc. Et ce second voyage, il embarque pour l'Europe, et on va voir un peu le périple qu'il fait. Il aboutit à Corinthe, au sud de la Grèce. Il va y rester un an et demi au moins, si pas deux ans. Et de là, il aura le temps de commencer à écrire, notamment aux Thessaloniciens, on va le voir à l'instant. Donc, un deuxième grand voyage qui marque le passage dans l'actuelle Europe, si vous voulez, en Grèce, et donc un autre monde culturel et linguistique, et un premier séjour un peu long à Corinthe, où il va porter la foi. Si nous prenons l'équivalent de ce voyage numéro 2 sur les cartes de la page 5, vous voyez, on part d'Antioche, donc c'est la carte à gauche en bas, on part d'Antioche, il passe par sa ville natale, Tarse, et de là il se dirige vers Derbé, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, mais cette fois-ci il monte vers le nord, pique vers le nord, la Galatie, Dorylée, et puis il va comprendre dans une vision des actes où un ange lui dit, lui montre un Macédonien qu'il appelle au secours, qu'il doit, plutôt que de continuer dans ces régions du nord du plateau d'Anatolie, se diriger vers l'ouest. Et à Troas, il s'embarque, il va aller à Philippe de Macédoine, Amphipolis, Thessalonique, Bérée, donc on fait la boucle, on est en train de descendre de la Macédoine qui est au nord de la Grèce, le long de la Grèce, il passe à Athènes, sa prédication, quand il parle de la résurrection, ne va pas être le plus grand succès, et là, il aboutit à Corinthe, où il reste durablement. Mais alors, pour rentrer, il va franchir la mer Égée. Vous savez qu'il y a deux mers. La mer Égée, c'est entre l'Italie et l'Asie mineure. La mer Adriatique, c'est de l'autre côté, entre la Grèce et l'Asie mineure. Et la mer Adriatique, c'est de l'autre côté, bien sûr, de l'Italie, entre l'Italie et la Grèce, entre l'Italie et la Grèce. Toujours est-il que là, il franchit la mer Égée, donc entre la Grèce et l'Asie mineure. Il passe déjà à Éphèse, où il séjournera beaucoup plus longuement lors d'un troisième voyage. Et puis il redescend, il repasse par Rhodes et regagne le port de Césarée, qu'on dit maritime. Quand on dit Jésus est dans les régions de Césarée et de Philippe, ce n'est pas cette Césarée-là, c'est plus à l'intérieur, à au nord de la Palestine. Mais Césarée Maritime, elle avait été fondée, une ville par César, de son nom, maritime, pour dire qu'elle était au bord de la Méditerranée. Et c'est important de le savoir, parce que c'est là que, après son troisième voyage, Paul aboutira aussi, chassé de Jérusalem, en stand-by, pour attendre son transfert à Rome. Mais toujours est-il, pour le moment, il revient de ce voyage de Césarée Maritime, et il regagnera Antioche comme base de départ par voie de terre ou bien par cabotage le long des côtes. Troisième voyage, je reviens à la carte de la page 4. Troisième voyage, Paul et ses compagnons d'Antioche où il est revenu en passant par Césarée et Jérusalem. Donc il repart d'Antioche. Il séjourne cette fois-ci lors de ce voyage, vous voyez la flèche numéro 3. Il ne s'attarde plus dans les communautés qu'il a fondées, voyage 1, qu'il a revisité, voyage 2, il pique directement vers Éphèse, voyage 3. Et d'Éphèse, là, il va remonter, refaire un périple, revenir à Corinthe, une deuxième fois, c'est ce qui est mis sous les mots après un périple en Grèce, il va revenir à Jérusalem, où il est arrêté et emprisonné à Césarée. Si je prends sur la page 5, plus en détail, ce voyage, c'est donc la carte à droite en haut. On part d'Antioche, Tarse. On ne repasse pas par Iconium, Antioche de Pisidie, mais par la Galatie du Nord. Et on incurve vers le sud sur Éphèse. Et d'Éphèse, Paul va faire tout un périple en Grèce. Et plutôt que, une fois arrivé à Corinthe, plutôt que de retraverser la mer Égée, comme il avait fait à la fin de son deuxième voyage, cette fois-ci, il va remonter par voie de terre, en sens inverse. Il repasse de nouveau à Bérée, Thessalonique, Philippe, etc. Il revient à Éphèse. À Éphèse, un peu plus bas qu'Éphèse, à Milet, a lieu la célèbre scène de l'adieu aux anciens d'Éphèse qui sont venus pleurer le fait qu'il leur fait comprendre que c'est sans doute la dernière fois qu'ils les voient. C'est dans le récit des Actes. Et de là, après avoir pris congé d'eux dans la prière et les larmes, eh bien, il monte à Jérusalem où il pressent, avait-il dit, que des chaînes l'attendent. Et de fait, à la Pentecôte de l'an 58, eh bien, en arrivant à Jérusalem, il va être arrêté par les autorités. Et pour le faire échapper à la vindicte des autorités, on s'arrange, des amis s'arrangent pour qu'il soit amené de nuit à Césarée Maritime, pour être plus à l'abri. Comme il en a appelé à César, c'est là qu'il va attendre son transfert, son dernier voyage à Rome. Donc j'ai reparcouru un peu le troisième voyage, puis un voyage de captivité, c'est la flèche pointillée numéro 4 sur la page 4, voyage de la captivité. Après 2 ans de prison, enfin résidence surveillée à Césarée, Paul fait appel à César et par bateau il sera conduit à Rome, où il connaîtra encore un emprisonnement, en tout cas garde surveillée, en 61 et 63. C'est le voyage dit de captivité. Donc vous avez la carte aussi sur la page 5, c'est la carte à droite en bas. Avec un voyage avec des tribulations maritimes aux alentours de la Crète et puis un naufrage à Malte, comme le disait le récit de la fin des Actes. Voilà un peu pour donner une première idée de ces trois voyages. Alors, c'est dans ce cadre chronologique ainsi posé de trois périples que nous allons repérer à quel moment, probablement, sont écrites les lettres et les groupes de lettres. Et à ce moment-là, je vous invite à avoir sous les yeux la page 6 que je vous donnais, 6 et 7 surtout. Je vais commencer par la page, je vous invite à voir la page 7 sous les yeux. Le tableau du haut récapitule, d'abord dans la partie gauche, le tableau du haut récapitule les divers voyages que je viens d'évoquer. Vous voyez, avec les numéros sur la carte générale. Premier voyage, comme je disais, une boucle relativement limitée en Asie mineure, de 45 à 48, semble-t-il. Puis, après ce premier voyage, on situe l'Assemblée de Jérusalem, dont parle Acte 15. C'est souvent là qu'on la situe. Pas toujours, mais la plupart. Après ce premier voyage, l'Assemblée de Jérusalem, d'Acte 15, où précisément Paul monte avec Barnabé pour discuter avec les apôtres et savoir faut-il ou non imposer la circoncision et le précepte alimentaire, etc., aux nouveaux convertis venus du paganisme. Et l'enjeu est décisif. Si on leur avait imposé la circoncision et des obligations, sans doute qu'ils auraient été beaucoup plus réticents, un bon nombre, à se convertir. Et donc l'Assemblée, ce qu'on appelle l'Assemblée ou parfois le premier concile de Jérusalem. Le deuxième voyage, de 50 à 52. On arrive à le dater parce qu'on sait que Paul était à Corinthe au moment où un certain Gallion était en service dans la ville. Et par l'historiographie romaine, on connaît par ailleurs les dates où ce Gallion était en fonction. Donc on peut dater ce séjour de Paul à Corinthe et on peut dater conséquemment la rédaction de la première et la deuxième aux Thessaloniciens qu'il aurait écrit de Corinthe, vous vous souvenez, où il a abouti et où il est resté un an et demi lors de son deuxième voyage, celui qu'il a fait passer en Grèce. C'est ce qu'on appelle communément les premières lettres, 1 et 2 Thessaloniciens. Vous voyez quand même que de Galate, j'ai mis une petite flèche en pointillé qui monte vers le haut avec un point d'interrogation. C'est l'hypothèse que je soulignais, qu'on reverra au moment où on étudiera la lettre aux Galates, c'est que s'il a déjà rencontré la Galatie du Sud lors de son premier petit périple, certains pensent que peut-être il aurait écrit aux Galates déjà à ce moment-là. Donc, en l'occurrence, ça serait, ce n'est pas l'hypothèse majoritaire, mais ça serait la toute première lettre de Paul. Mais pour l'opinion la plus commune, ce qu'on appelle les premières lettres, ce sont 1 et 2 Thessaloniciens, qui vont, on va le voir, nous centrer sur la mort et la résurrection du Christ et déjà la perspective de la venue du Seigneur, dont les Thessaloniciens s'inquiétaient. Le troisième voyage, plus long, vous voyez, de 53 à 58, quand même 4-5 ans. D'abord, Paul séjourne un peu longuement à Éphèse, pendant 2 ans, et puis, on a vu, en remontant vers la Grèce, il revient à Corinthe, qui est le lieu où il passe. Et d'Éphèse, il va soit à Éphèse, soit en chemin vers la Grèce, vers Corinthe, il va écrire ce qu'on appelle les grandes épîtres, c'est-à-dire la lettre aux Romains, les deux lettres aux Corinthiens, Galate dans l'hypothèse d'une visite approfondie des Galates un peu plus tardive, Philippiens, j'ai mis un point d'interrogation avec une petite flèche, parce que Philippiens présente des aspects de lettres de captivité. Donc on se demande parfois s'il ne faut pas la conjoindre, du point de vue de ce groupe de lettres, à Colossiens et Éphésiens, qui sont les lettres de captivité les plus patentes et reconnues. Mais toujours est-il que ce qu'on appelle en général les grandes épîtres, c'est Romains et Galates, dont les thématiques sont proches, les deux lettres aux Corinthiens et la lettre aux Philippiens. Et le cœur de la problématique de la lettre aux Galates, mais aussi déjà dans la lettre aux Romains, c'est qu'on est sauvé non pas tant en observant les œuvres de la loi, mais en mettant sa foi dans le Christ, capable de nous faire miséricorde. Troisième groupe de lettres, ce sont les lettres de captivité. Là, nous sommes dans les captivités, sans doute de Césarée d'abord, où il est en stand-by avant de partir pour son voyage vers Rome, en 58-60, ou bien la captivité romaine. Donc, est-ce que c'est de Rome qu'il écrit ces lettres de captivité, Colossiens, Éphésiens, le petit billet à Philémon, ou bien, est-ce qu'avec certains, vous pensez qu'à Césarée, où il a déjà connu une forme de captivité, il a eu une activité rédactionnelle en ce sens. Au moment où on verra les lettres, on reprendra dans les détails. Mais retenez, dans les groupes de lettres, les premières lettres, les grandes épîtres, puis les épîtres de captivité. Colossiens, Éphésiens, le billet à Philémon, assurément. Et partageant en partie leur tonalité, Philippiens. Colossiens et Éphésiens vont détailler le rôle du Christ dans l'histoire de l'univers, ça sera surtout davantage Colossiens, et dans l'Église, l'ecclésiologie de Éphésiens est importante. Est-ce que le périple de Paul s'est terminé là où les actes s'arrêtent, en nous laissant sur Paul en prison, donc au terme de son quatrième voyage? Certains auteurs pensent qu'il se serait mis à voyager. Après un premier temps de captivité à Rome, il aurait connu un nouveau voyage, un cinquième, dernier voyage, qui l'aurait amené, comme il dit, selon son projet, à la fin d'un lettre aux Romains, aux portes de l'Occident, c'est-à-dire, en l'occurrence, peut-être jusqu'au détroit de Gibraltar. Et certains auteurs anciens disent, mais Paul a peut-être, entre deux captivités romaines, encore connu un voyage d'extension missionnaire vers l'Ouest. C'est ce qu'il y a derrière les mentions 5e voyage, point d'interrogation, 2e captivité, point d'interrogation. Toujours est-il qu'il revient à Rome, à supposer qu'il ait fait un périple entre deux moments de captivité, et c'est la captivité finale au terme de laquelle il sera mis à mort sous Néron, entre l'an, autour de l'an 67. La date de sa mort, entre 64 et 67, mais s'accorde plus facilement sur 67. De là, il aurait écrit les lettres pastorales, à moins, on le verra, qu'il faille considérer que seule la deuxième à Timothée, qui est vraiment testamentaire, est la plus tardive, mais que les autres, à Tite et à la première à Timothée, seraient plus précoces. Mais ce qu'on appelle les lettres pastorales, le quatrième groupe, ce sont les lettres nominalement adressées à ces deux personnes, Timothée et Tite. Et on voit bien que le souci de Paul est de passation testamentaire, de confier le bon dépôt, il sent qu'il est proche de sa fin, à ses disciples qui prendront le relais et il les donne des indications pour l'organisation des communautés et la transmission, comme il dit, du bon dépôt de la foi. Voilà pour ce qui est de parcourir un peu ces périples et déjà une première idée de groupe de lettres, les premières, les grandes, les lettres de captivité, les pastorales. C'est déjà une manière de s'y retrouver dans le corpus des lettres pauliniens que l'on va maintenant aborder. C'est la deuxième partie de votre feuille de route, l'écriture au service de la parole. Et il était important de donner le cadre dans lequel ces écrits vont voir le jour. Ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. Hormis l'hypothèse de la lettre aux Galates, précoce, à supposer que qu'on croit généralement que la première soit la première aux Thessaloniciens, c'est en l'an 51-52. Les évangiles, leur rédaction finale, ne date pas d'avant le milieu des années 60, 63-64 ou plus tôt. Ce qui veut dire que 12 ans avant la rédaction finale des évangiles, Paul écrit déjà des lettres. Et le genre littéraire n'est pas le même que celui des évangiles. Les évangiles racontent la vie de Jésus terrestre jusqu'à sa passion, résurrection, ascension, telle que l'ont connue les 12 et ses contemporains. Paul n'a pas connu ce Jésus terrestre, semble-t-il. Il l'a rencontré d'emblée comme ressuscité sur le chemin de Damas. D'où dans ses lettres, ben, il n'évoque pas les intérêts. Il y a quelques points d'attache avec les évangiles, mais rares. Ce qu'il fait, c'est une réflexion théologique et pastorale sur les conséquences du mystère pascal, les implications du mystère pascal, la mort, la résurrection du Christ, qu'est-ce que ça signifie comme espérance pour la vie des communautés, etc., comme accomplissement des Écritures. Donc c'est déjà une réflexion seconde, mais qui vient avant le récit mis par écrit, parce que bien sûr il y avait déjà des traditions orales des évangiles en gestation. Mais c'est impressionnant de voir comment les lettres, une douzaine d'années avant les évangiles, élaborent déjà, avec le recul de Paul, une théologie, en tout cas, du noyau, du kérir, comme on dit, de la proclamation, c'est-à-dire le mystère pascal. Donc, ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. Alors, les épîtres pauliniennes, on distingue parfois la lettre d'une épître. La lettre est plus, en fonction de destinataire précis, de circonstances déterminées. Une épître, ma manière d'utiliser le mot, désigne plus généralement quelque chose d'un écrit qui a déjà l'aspect d'un petit traité un peu organique. Ce n'est pas simplement une lettre, mais il y a un développement doctrinal, structuré, élaboré. Par exemple, la lettre aux Romains. Mais Paul, souvent, fait les deux. À la fois, il écrit à des destinataires déterminés, d'où l'importance de l'attention à prêter à l'adresse des lettres et à la conclusion, l'envoi, les bénédictions finales, les salutations. Il s'adresse bien à des gens concrets, mais à l'occasion de problèmes concrets, c'est sûr qu'il élabore sa pensée, qu'il donne à ses lettres un caractère d'épître, en ce sens d'un écrit plus approfondi, et qui tient déjà en lui-même, si l'on peut dire, indépendamment des circonstances de son énonciation, même si nous les verrons. Il y a 13 lettres parmi les lettres du Nouveau Testament. Il n'y a pas des lettres que de Paul. Il y a ce qu'on appelle les épîtres catholiques. Jacques, Jean, Pierre, c'est ce qu'on appelle le groupe des épîtres catholiques. Il y a la lettre aux Hébreux, que l'on met parfois dans le corpus paulinien au sens le plus large. Mais c'est la 14e, parce que la lettre aux Hébreux n'est pas une lettre. Il semble que son origine, ça soit une homélie très structurée, qui a été reprise, développée, et puis envoyée à une communauté. Mais au départ, c'était une homélie. Aux Hébreux, elle n'est pas spécifiquement aux Hébreux, même si on voit bien qu'elle s'appuie particulièrement sur les écrits de l'Ancien Testament. Mais dans le texte, il n'y a pas de mention particulière aux Hébreux, ça a été postérieur. Elle n'est pas de Paul, sans doute, parce que la thématique, à savoir le Christ grand prêtre, est étrangère, si je puis dire, aux évangiles et à Paul. C'est la grande originalité de la lettre aux Hébreux, mais très, très pertinente et très fondée. Alors, il y a des points de convergence avec la théologie paulinienne, mais le style, l'organisation générale, le genre littéraire est quand même très sensiblement différent de ce qu'on connaît chez Paul. D'où ce n'est pas une lettre de Paul un peu au sens plus strict. La question de l'authenticité des lettres, quelle est-elle? C'est que les auteurs s'accordent pour reconnaître que 7 lettres au moins, en tout cas il y a unanimité, 7 lettres au moins sont de la main de Paul lui-même, directement. Soit qu'il écrive, qu'il y en a plus, soit qu'il ait, comme ça se faisait souvent dans l'Antiquité, un secrétaire, mais qui est bien attentif, quand on voit la précision des termes, à la dictée de Paul. Mais parfois, il lui arrive de mettre dans telle lettre, voyez, les mots de la fin, cette inscription est de ma propre main, à moi Paul. Ce n'est plus le secrétaire qui est en train d'écrire, mais le contresigne la lettre pour dire que j'approuve la manière dont il a transcrit. Et donc dans ces lettres authentiques en ce sens-là, il y a 7 lettres. La première aux Thessaloniciens, les grandes épîtres, à savoir, je rappelle, Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens, Philippiens, nous sommes à 6, et le petit billet à Philémon, qui est tellement personnel qu'on ne doute pas qu'il soit vraiment directement de Paul. Alors pour les autres, certains auteurs, mais pas tous, se demandent si elles sont écrites directement par Paul, ou bien, notamment des lettres de captivité ou une autre lettre pastorale, et ce ne sont pas des écrits pseudépigraphiques, comme on dit, en termes un peu techniques, c'est-à-dire qu'on écrit sous le pseudonyme, sous le nom d'un autre. non pas pour faire un plagiat, non pas comme œuvre de faussaire, mais pour se mettre sous l'autorité. Donc c'est peut-être à supposer que telle lettre soit d'un disciple de Paul, il se met sous l'autorité de Paul, tout comme déjà les psaumes sont attribués à David, certains sont assurément de David directement, mais pas tous, certains sont mis sous l'autorité de David. De même des écrits, la sagesse de Salomon, écrite en l'an 30 peut-être avant Jésus-Christ, n'est pas de Salomon directement. Mais elle entre pleinement dans l'esprit de cette sagesse qui habitait Salomon, et donc l'auteur, par le procédé de la pseudépigraphie, se revendique de l'autorité de Salomon. Alors bien sûr, s'il y a pour Paul certaines lettres qui ne sont pas directement de sa main, à ce moment-là, il faut les mettre dans une période quand même un peu ultérieure, après sa mort. On ne se serait pas permis, du vivant de Paul, d'écrire une lettre en son nom. Si ça a été fait, ce qui n'est pas à exclure totalement, eh bien c'est plutôt après Paul. Et je le répète, c'est dans une intention qui n'est pas mensongère, mais qui veut signifier par là, j'ose me mettre sous la paternité de Paul en étant vraiment convaincu que je suis fidèle à la pensée de Paul. Donc c'est plutôt une manière d'appuyer son écrit comme authentique. Alors, ce qui est... donc ça, pour distinguer l'authenticité au sens immédiat, c'est-à-dire de la main même de Paul, de son secrétaire, mais alors, je dis, les autres lettres ne sont pas nécessairement inauthentiques. Pourtant, elles sont parfaitement authentiques du point de vue de la doctrine, de la cohérence avec la doctrine paulinienne. Et c'est pour ça que lorsqu'on considère le corpus paulinien dans le Nouveau Testament, il est important de prendre toujours l'ensemble des 13 lettres. Il y a parfois des auteurs qui font des études d'ensemble en disant, d'abord brièvement comme ça en deux mots dans la préface, je m'en tiendrai aux seules lettres reconnues par tous comme authentiques, les 7. Et puis on laisse tomber les autres. Or, il y a des thématiques pauliniennes capitales dans la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, etc. Donc il faut prendre tout le corpus. Et c'est tout le corpus qui est entré dans le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la liste des lettres, des écrits reconnus comme authentiquement inspirés. Donc, à supposer que certaines ne soient pas directement de la main de Paul, elles sont reconnues comme pleinement inspirées et à ce titre entrent dans le canon du Nouveau Testament. Alors, l'ordre canonique des lettres, d'abord, leur reconnaissance apparaît assez tôt dans le fait que, rapidement, les grands manuscrits comportent l'ensemble des lettres, et pas simplement l'une ou l'autre. Et il y a des papyrus, je n'entre pas dans les détails, les papyrus, c'est plus tard des écrits sur parchemin au 4e, 5e siècle, eh bien, qui contiennent l'ensemble. C'est-à-dire, c'est une manière de signifier leur reconnaissance. Alors, leur ordre canonique, dans le Nouveau Testament, Rococo, Galéficolté, Tititifié, etc., c'est l'ordre des lettres, romains, corinthiens, galates, etc. L'ordre dans lequel elles sont rangées dans le Nouveau Testament n'est pas l'ordre dans lequel elles ont été rédigées. Il ne faut pas confondre l'ordre de chronologie rédactionnelle avec l'ordre d'édition dans le Nouveau Testament. En tête viennent les lettres, on commence par Romains. Les lettres les plus importantes, enfin toutes ont leur importance, mais les lettres les plus importantes et les plus longues, généralement. Romains est la plus longue. Et puis les lettres aux Corinthiens sont substantielles aussi, et puis on avance vers des lettres plus brèves. Et un deuxième critère, c'est qu'on a toutes les lettres adressées à des communautés, aux Romains, aux Corinthiens, aux Philippiens, etc. Et en finale, les pastorales, qui sont des lettres adressées à des personnes qui ont été éditées. Même si là, en l'occurrence, il y a sans doute concordance entre leur place chronologique, les derniers rédigés, et leur place dans l'ordre rédactionnel. L'accès original au texte est bien assuré, je n'entre pas dans ces questions de critique textuelle, c'est-à-dire qu'on a peu de variantes dans les manuscrits qui posent une question importante. Il y a parfois des variantes sur un adjectif qui sont généralement mineurs et sans grandes conséquences pour la compréhension du texte. Il faut savoir que les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament sont parmi les écrits de l'Antiquité, sont les écrits de l'Antiquité les plus fiables du point de vue d'une tradition manuscrite. Même pour un historien profane, il doit le reconnaître. On a plus d'écrits de Paul, de l'Évangile, des écritures de l'Ancien Testament, plus de manuscrits hein, que des écrits de Platon, etc. Donc il y a une tradition manuscrite solide à laquelle on peut se fier pour accéder au texte original. Alors je termine en abordant ce point, l'écriture paulinienne, qui nous aidera à entrer dans le texte même de la première aux Thessaloniciens. Comment débute une lettre ? Je vous invite à prendre un instant, vous y restez sur la page 7. Enfin, se déroule plutôt une lettre dans les grandes lignes. Paul écrit, c'est le petit encart sur la page 7, en bas à gauche. Paul écrit, comme on le fait à son époque, une adresse. Qui ? À quel titre ? Écrit à qui ? Pour le saluer de la part de qui ? Voilà les éléments principaux du épître. Paul, éventuellement avec Sylvain Timothée, on se qualifie apôtre de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Et le souhait, et de la part de qui ? Le souhait, grâce et paix, généralement, dans le pastoral on verra grâce, paix, il y a un troisième terme, miséricorde, et de la part de qui ? C'est toujours de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On se nomme, on se qualifie, on s'adresse au destinataire et on leur envoie la bénédiction de grâce et de paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors si on a ce schéma en tête, l'intérêt c'est de voir les moments où Paul va s'en écarter ou bien développer tout d'un coup un élément entre... le moment où il s'est nommé et où il va dire à l'Église, ben, il y a là 3-4 versets nouveaux. Et donc, ce qu'il y a dans l'entête d'une lettre qui déborde le strict cadre d'une adresse habituelle est toujours instructif. Et ça, on y sera attentif parce que c'est souvent annonciateur d'un ou l'autre thème important déjà de la lettre. Et donc, la lettre commence par une adresse. Et puis, il y aura une prière. On verra quelle forme elle prend. C'est souvent une prière dans la foulée d'une action de grâce pour ce qui se vit de beau dans la communauté et qui est ressaisie par Paul dans la prière. Puis le corps de la lettre qui va présenter certains aspects doctrinaux et puis d'autres plus exhortatifs. Bon, on verra qu'ils peuvent s'organiser de manière différente au gré des lettres. Et la finale épistolaire, selon le genre du courrier à l'époque, bien sûr. On donne des nouvelles de ses collaborateurs, on salue les chrétiens. Et on termine par une brève formule de bénédiction. Tel est le schéma général de la lettre, dont j'ai déjà détaillé un peu plus les éléments qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'adresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. La fois prochaine, ayez lu le texte de la première aux Thessaloniciens, parce que cette fois-ci, après avoir encore s'entraîné, évoqué quelques traits généraux de l'écriture de Paul, là nous entrerons dans le texte. Merci.